Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Delphine Astou, bonjour.
Bonjour.
Et de Mathieu Chapsal, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler, entre autres, du Conseil de la Nouvelle Résistance. Et puis un peu plus tard, avec Delphine, nous parlerons de la spéléophonie.
Absolument.
Alors, le Conseil de la Nouvelle Résistance est venu déjà poser son pied cet été, hein, à l'espace Barral. Est-ce qu'on peut peut-être nous en donner un bilan de ces rencontres ?
Bien sûr, je préciserai simplement que c'est le CNNR qui veut dire Conseil National de la Nouvelle Résistance. Donc, simple précision pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et donc, il y a eu un rassemblement qui a été fait fin juillet à l'espace Barral. Donc, on s'est retrouvés à 50 pendant 3 jours. 3 jours de réflexion et puis de débat pour faire le point sur la situation, puis comment on allait s'organiser. S'organiser pour la suite des événements. Et donc, cette réflexion nous a amené à organiser un deuxième événement. Donc, les dates ont été fixées au 8, au 9, 10 et 11 octobre 2020 sur Die, avec la dynamique de vouloir rassembler environ entre 500 et 1000 personnes, avec une quantité limitée maximum à 1000 personnes. Donc c'est en train de se mettre en place. Donc il y a des comités et des équipes qui se sont organisés. Et nous, avec Delphine et Daniel, pour l'instant, on forme l'équipe logistique et donc on est ce week-end. Enfin, là, on est venu 3 jours à Die pour faire un bilan sur les capacités d'hébergement, les différentes possibilités de salles, parce que donc c'est un week-end d'échange qui a pour objectif de former et de créer une trame pour la création des comités locaux au niveau national. Donc c'est que les personnes qui sont motivées et intéressées par ce mouvement et cette dynamique, qui est une dynamique principalement de convergence, de rassemblement et de convergence dans un esprit collégial, qu'on apprenne à travailler ensemble au même niveau, dans la même direction. Et donc l'axe principal du week-end du 9, 10, 11 est la préparation et l'organisation et la formation en vue de développer les comités locaux au niveau national. Tout ça pour que c'est comme un essaimage. On va dire que chaque comité local est comme une graine qui doit promouvoir l'esprit du CNNR, qui est bien évidemment en lien avec le CNR. Et donc je vous suggère de d'aller vous informer sur premièrement le CNR. Il y a un très bon film documentaire qui a été fait qui s'appelle Les Jours Heureux. Donc ça vous donne déjà un bon tableau sur ce qui était le CNR, donc qui s'est construit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est notre base pour redonner à la France son système social, qui relie la Sécu, qui relie les retraites, qui relie la CAF, et qui fait que nous voulons redonner à ces valeurs et à cette nécessité une importance première.
Je rappelle aux auditeurs juste de faire le distinguo avec le nouveau conseil de la nationale de la résistance. Hein. Et puis, donc, vous vous êtes retrouvé cet été à l'espace Barral. Qu'est-ce qui vous a motivé pour relancer ce conseil national de la nouvelle résistance? Et puis, la question est de savoir résister sur à quoi?
Alors là, je peux peut-être répondre à cette question, si tu permets, Mathieu. En fait, je crois que ce qui est important de dire, c'est que Mathieu et moi, nous sommes bénévoles sur le projet. Et que ça, c'est une question qu'on peut poser lorsque nous ferons notre table ronde le 8 octobre dans votre radio avec les intervenants et les membres du Conseil, puisque nous ne faisons pas partie du Conseil. C'est important de le dire. Nous, on est vraiment là aujourd'hui pour témoigner en tant que bénévoles sur notre engagement personnel, je pense, hein, Mathieu.
Oui.
Et inviter les auditeurs à découvrir ce que c'est que le CNNR. Donc je préfère ne pas répondre à cette question si ça ne vous dérange pas. Néanmoins, ce que je peux ajouter, c'est que ce CNNR, il est composé de 20 personnes. Le conseil est composé de 20 personnes, 10 hommes et 10 femmes. Et si vous allez voir sur la page Facebook du CNNR, vous aurez la composition exacte des membres. Et puis notre présidente d'honneur, Anne Beaumanoir, cette magnifique résistante qui nous a fait la grande honneur de venir passer la journée du samedi 25 juillet avec nous ici. Une grande dame de 97 ans, lumineuse, qui nous a vraiment beaucoup apporté, donné vraiment un message d'espoir quant à notre mouvement, puisqu'il est bien évident que nous ne sommes pas en guerre comme en 1940. Elle était dans les maquis à 17 ans, à vélo, elle distribuait ses documents secrets. Et nous, on n'est pas dans cette configuration-là. Pour nous, en fait, cette résistance, c'est... Moi, en tout cas, c'est vraiment parce que je crois que le danger est sournois, il est vraiment souterrain, il est moins visible que du temps du nazisme ou du temps de la Seconde Guerre mondiale, mais il est néanmoins réel. Et que ce CNNR soulève des questions de liberté individuelle, de beaucoup d'autres choses sur le plan citoyen et de qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir, surtout après les derniers événements du fameux Covid dont tout le monde nous rabat les oreilles. Quoi. Donc, ouais, c'est ça dont il s'agit, je pense.
Vous parliez de l'occupation et de sa résistance. Tous opéraient dans un aspect clandestin plutôt. Mmh. Comment amener cette nouvelle résistance médiatiquement et au grand jour?
Toute la question est là. Hein.
Est-ce que c'est compatible?
Nous nous posons la question. Je ne peux pas répondre. Nous nous posons la question. Je crois que ce qui est important aussi, c'est que ce qui, pour moi, est une valeur forte de ce que ce mouvement propose, c'est qu'on nous laisse la parole avec un moyen qui s'appelle l'intelligence collective, qui va d'ailleurs faire partie des formations qu'on va proposer sur le week-end du mois d'octobre. C'est un des outils, hein, il y en aura beaucoup d'autres, mais l'idée, c'est que les gens repartent avec des outils pour débattre de manière efficace, efficiente sur ces questions-là. Et qu'à la sortie de ces week-ends, on va en monter plusieurs. Je ne peux pas dévoiler plus que ça, mais voilà, cette réflexion est au cœur de notre mouvement, ça c'est certain. Je ne sais pas si on peut dire mouvement d'ailleurs.
Oui.
Du conseil.
Oui, voilà. Là, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y aura à peu près 50 intervenants, donc il y a plusieurs thèmes. Il y a vraiment. Une variété de sujets et de thèmes, comme notamment l'intelligence collective, les outils numériques. Et donc, c'est pour échanger, partager et trouver ensemble une direction à prendre qui soit résiliente et efficiente dans un esprit collégial pour aller vers un humanisme juste.
Le mot convergence, je crois, est un mot juste. Hein, tu l'as employé, ouais, Mathieu, tout à l'heure.
Ouais. À l'heure actuelle, l'opposition est complètement disséminée par une multitude de mouvements, d'idéologies. C'est le plus gros du travail, c'est de pouvoir rassembler de nouveau ce ferment qui pourrait amener à la résistance, en quelque sorte.
Le CNR, c'est l'ensemble des résistants français qui se sont rassemblés et se sont concertés pour arriver à trouver des consensus. À l'appel du général de Gaulle. Et ils n'étaient pas du tout du même bord, du même parti. Donc ils ont dû trouver des consensus pour arriver à créer un texte de qui permettrait de construire la France d'après-guerre. C'est ce qui a été le cas, d'ailleurs. C'est ce qui a lancé la Sécu, tout ça. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour en revenir donc à la question de la convergence par rapport à tous les mouvements qui existent aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a, on rejoint l'esprit du CNR, c'est-à-dire que on souhaite pouvoir échanger et communiquer avec, je dirais, tous les mouvements existants et de trouver des consensus, des points centraux, de manière à pouvoir avancer ensemble, non pas les uns contre les autres, parce que nos avis et nos points de vue divergent sur certains points. Il y a un point où, de toute façon, les avis convergent forcément, c'est qu'on souhaite tous vivre heureux et dans un environnement sain. Il n'y a pas un humain qui dira le contraire. Donc, c'est le point central, c'est la convergence, c'est trouver ensemble des consensus pour avancer.
Et d'ailleurs, on peut en profiter pour dire, peut-être à cette fin d'interview, que nous sommes à la recherche d'une centaine de bénévoles sur 10 pour nous aider, nous soutenir à créer cet événement du mois d'octobre dans différents... Alors, c'est nous deux qui allons faire le lien. Il y a un mail qu'on peut peut-être transmettre.
Oui, je vous donne l'adresse. C'est un appel sérieux et important, parce que pour construire un événement comme ça, ben, on est déjà un certain nombre, mais il faut bien évidemment des bénévoles. Et donc, c'est un appel, comme l'a dit Delphine, de au moins 100 bénévoles pour pouvoir accueillir 1000 personnes sur 10. Et les bénévoles d'ici, quoi, c'est, voilà, qui participent à ce mouvement. Donc je vous donne l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer. C'est moi qui vous répondrai. C'est logistique-dit-cnnr@gmail.com. Donc logistique, hein, comme ça s'entend, la logistique, dit DIE, et CNNR, bah, c'est 2NR, @gmail.com. Voilà, donc vous pouvez envoyer
un courriel.
Un courriel, et on vous répondra, et on s'organisera avec vous en fonction des points qu'on est en train de préparer.
Un point important, on n'a pas besoin de donner 50 heures par semaine. On peut faire des petites tâches sont déjà très bienvenues.
Voilà, voilà.
Vous imaginez déjà le déroulement de ce week-end ? Ça sera un week-end, le 9, 10, 11. Vous imaginez un peu concrètement comment ça se produirait et dans la faisabilité, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des possibilités ?
C'est peut-être un peu tôt pour répondre à la question.
Oui, c'est peut-être un peu tôt.
Mathieu. Ouais, parce qu'on est vraiment dans l'élaboration, là. Donc, c'est un peu tôt. On ne va pas dévoiler tout de suite. On est encore dans la programmation, le contenu. Et puis, ce serait mieux que vous intervieviez Martin, qui est notre coordinateur. Lui, il vous répondra beaucoup mieux que nous, je pense.
Ce sera l'occasion d'une autre émission en amont de ces rencontres, hein, qui
auront
lieu. Donc, qu'est-ce qui fait que ce Conseil national de la Nouvelle Résistance ait pris naissance seulement en ce moment ? Alors que le Conseil national de la Résistance a toujours été mis à mal dès le départ. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a des mouvements émergents qui ramènent à ce Conseil ?
Je crois que la raison principale, c'est que depuis 30-40 ans, tout le système social français est décortiqué et détruit progressivement. Et il devient urgent. Là, on est à la période de non-retour, donc il y a vraiment un engagement et un investissement de tous ceux qui se sentent concernés et qui sont sensibles à ça. Et que, on est dans une période très floue. On est dans un basculement. Et la démarche, c'est que, enfin, personnellement, c'est qu'il n'y a pas le choix. Il faut s'engager, il faut s'investir, il faut se concerter, se défendre pour garder nos droits, pour garder nos valeurs françaises. La société française, d'après-guerre, elle s'est développée sur un système d'équité, de soutien, d'accompagnement. Et c'est des valeurs humaines qui sont fondamentales. On va vers un monde qui va changer et il faut qu'on soit solidaires. Voilà.
Est-ce que aussi, ce serait le fait que les pouvoirs qui se sont mis en place maintiennent la population ou les administrer dans une sorte de flou ?
Ça me paraît évident.
Ah oui, c'est plus qu'un flou, ouais. C'est de la poudre aux yeux depuis longtemps.
Ouais, pour nous, voilà, ouais. Ça c'est notre point de vue, évidemment.
Là, à l'heure actuelle, nous vivons cette période de la Covid. Est-ce qu'on peut aussi y voir, une manipulation du pouvoir vis-à-vis de la population, tout comme on aurait pu rapprocher ça avec le gouvernement de Vichy, quelque part, qui amène d'ailleurs ses délateurs. Il y a quelques cas qui commencent à s'entendre sur 10, déjà.
Ah ouais, je peux peut-être juste évoquer une anecdote. Quand notre président Macron a pris la parole, la première ou la deuxième fois, je crois que c'était pour annoncer le prolongement du confinement, il a employé lui-même le mot « guerre ». Et ça, pour moi, ça a été un déclencheur. Je pense qu'on est nombreux à avoir réagi d'ailleurs à ça. Oui, on est en guerre. On est en train de nous museler, en fait.
Masqué.
Voilà, et en plus, moi, avec mon activité professionnelle dont je vous parlerai tout à l'heure, pour moi, c'est insoutenable, en fait. C'est ce qui, pour ma part, a déclenché mon engagement.
Et moi, je pensais aussi, est-ce qu'on pourra continuer à pratiquer des interviews encore, peut-être avec des masques, voilà, ça ne sera pas évident.
Nous posons la question aussi.
Justement, à propos de ça, je comparais les masques, le commerce du masque avec les profiteurs de guerre, puisqu'on est en état de guerre. On nous impose quelque chose. D'ailleurs, on ne nous facilite pas, justement, à ce port de masque, puisqu'il faut l'acheter. Et puis, les prix sont très fluctuants, semble-t-il. Mais pourquoi l'État ne s'est-il pas engagé, justement, sur une distribution à ses administrés de ces masques?
Voilà une des questions qu'on soulève, nous, dans le cadre du CNNR. Voilà, c'est pareil. Ça fait partie des questions qu'on pourra évoquer lors de la table ronde avec les intervenants, les membres du Conseil, parce que c'est vraiment eux qui ont lancé, en fait, ce Conseil national de la Nouvelle Résistance. Mais en effet, si à titre personnel, je devais répondre, moi, je transmets la parole en public, le chant, la technique vocale et tout ce qui est en rapport avec la respiration. Je ne vous dis pas, comme moi, je bondis quand on me masque et quand on oblige les gens à se masquer. Maintenant, on le fait, parce qu'il est vrai qu'il y a aujourd'hui potentiellement des risques pour les personnes fragiles. Mais ça suscite beaucoup de questions, surtout par rapport à une sorte... Moi, je le vis comme une sorte de culpabilisation, si jamais on ne le faisait pas. Il y a une manipulation, pour moi, dans le langage aussi. Ça, c'est tout un débat à développer. Voilà.
Manipulation des chiffres aussi, hein, puisqu'on nous annonce sans cesse d'augmentation de cas, mais sans pour autant des augmentations d'admissions dans les hôpitaux. Donc, est-ce qu'il y a une dilution de cette Covid sur la population, sans pour autant amener un réel danger? C'est une question qu'on peut se poser, et qu'on peut se poser au vu et à l'écoute de ce que les médias ou le pouvoir nous laissent entendre.
Absolument.
Pour les côtés pratiques de ces rencontres pour le Conseil national de la Nouvelle Résistance du mois d'octobre, vous êtes donc en recherche de bénévoles, mais aussi de lieux. Ça, c'est une proposition que vous faites aussi à tout bon entendeur. S'il y a une mise à disposition avec des préférences dans la ville même, ou alors ça peut être un peu plus à l'écart?
Ça peut être un peu plus à l'écart, mais le point principal, c'est d'être le plus rapproché possible du centre pour l'instant. Donc, on fait un topo sur tout ce qui existe, sur tout ce qui est possible. Et on fait également un appel pour les personnes qui auraient un local, qui pourraient accueillir une cinquantaine de personnes.
Entre 20 et 50, oui.
Oui, c'est ça. Parce que vu qu'il va y avoir une cinquantaine d'intervenants, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir toute une organisation, en fait, sur les deux jours, parce que en même temps, je réponds à la question de tout à l'heure, à un point qui n'a pas été clarifié, c'est que le week-end, donc il y a le vendredi et le samedi, qui sont deux jours avec des intervenants, des réunions, des débats, voilà, sur 10.
Et la formation.
Et donc, pour l'instant, on a une base, je dirais, stratégique qui est le... Comment ça s'appelle?
Le Martouret.
Le Martouret, voilà. Donc, pour donner une idée, y a 215 lits, il y a une capacité d'accueil au niveau des salles qui est de 300, 400 quelque chose.
Entre 300 et 400, oui.
Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est déjà le point de départ. Et ensuite, on cherche à développer, évidemment, le plus près du centre. Avec quand même une idée, y a quand même un point qui est important, c'est qu'on n'est pas là pour ni pour se prendre la tête, ni pour pleurer. On est aussi là pour rigoler ensemble et voilà, et que ça soit qu'il y ait quand même un côté festif et qu'on n'oublie pas que bah voilà, on fait la fête, quand on fait la fête, on est joyeux et on partage la joie ensemble. Donc c'est aussi un point important.
Avec des concerts dans les bars, on aimerait installer une guinguette éventuellement. Voilà, entre les ateliers, il y ait aussi des instants, comme tu dis Mathieu, des instants plus légers.
Vous parliez de formation, est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler un peu les formations que vous proposerez ?
Alors les formations, c'est essentiellement pour donner des outils, développer des outils pour que les personnes qui viennent à ce rassemblement leur donner des outils afin qu'ils puissent repartir chez eux avec des éléments important, que ce soit des supports, que ce soit des films comme Les Jours Heureux ou autres, de manière à ce qu'ils puissent avoir des outils pour...
créer des comités locaux dans leur région.
Voilà. Avec un esprit quand même central qui est donné par le CNNR.
Donc du coup, il y aurait des idées comme intelligence collective, former à l'intelligence collective, avec des professionnels qui viennent pour ça. Il va y avoir de la communication, il va y avoir aussi tout ce qui est numérique au niveau de la confidentialité, les réseaux alternatifs pour les réseaux sociaux par exemple. Moi je vais m'occuper de la prise de parole en public et de la réflexion sur le langage que l'on voudrait que le CNNR véhicule. La réflexion sur le langage, c'est quelque chose de très important. Moi je l'ai évoqué et puis j'étais tout de suite mise en résonance avec les autres bénévoles ou les autres membres du conseil, donc ça c'est précieux. Après on n'a pas encore notre programmation, c'est trop tôt, on est en pleine construction, mais il y a beaucoup d'idées qui fusent de partout. On envisage aussi de créer, je crois qu'on dit une hymne, donc un chant dédié spécifiquement au CNNR, voilà. À partir d'une mélodie connue, on va partir d'un texte que Pablo Servigne est en train d'écrire, qui sera une sorte de manifeste du CNNR, et qui, donc on partirait de son manifeste, s'il est d'accord, et on ne lui a pas encore demandé, s'il est d'accord, pour que nous puissions créer cette chanson. Voilà, qui serait donc apprise et promise, on va dire, pour le week-end du mois d'octobre.
Vous avez un site internet, à l'heure actuelle, du CNNR ?
Une page Facebook, CNNR.
Par les initiales ?
Oui.
Decepción y no tengo valor, tengo temor, caigo a llorar. Hay un cuchillo enterrado en mi interior, el veneno de mis lágrimas me hace maldecir, la tristeza que gris, melancolía funesta, bajando con el canto.
por mi decepción. Tristezo, tristezo, porque no tengo más, no tengo más que este sol. Tristezo, tristezo, espero salir con una sardina esta noche. Cuando me vio se vomitó. Tristezo, tristezo, hay una sombra en el sendero, tumba de desolación.
Oye, pero estoy tan triste que hasta mi pecho dejaron de dar leche.
Aussi à la spéléophonie ensuite avec vous Delphine, nous expliquer justement ce qu'est la spéléophonie.
C'est une longue histoire. Alors la spéléophonie est venue lorsque je créais mon site internet. Donc moi je suis formée à l'art lyrique, j'ai fait 10 années d'opéra et de concerts un peu partout. Et voilà, et il se trouve que par ailleurs j'étais aussi dans la pédagogie, la transmission. Sur la technique vocale, en fait, moi, j'ai une spécialité, c'est l'anatomie de la voix. Je me suis beaucoup penchée sur la technique vocale par le corps, parce que moi-même, j'avais rencontré des difficultés liées à ça. J'ai pris conscience très tôt que le corps est un instrument de musique, en fait, et que ce soit pour parler, chanter, voix projetée, par exemple, des enseignants à l'université, quand ils n'ont pas de micro, ou le conte aussi, voix lue. Enfin, tout ça, le journalisme, les avocats, tous ces métiers-là, en fait, on est tous pareils. On est un corps vibrant et que parfois, il y a des entraves qui font qu'à un moment donné, la voix se met à souffrir d'une manière ou d'une autre. Et donc, la vie m'a un peu conduite à rencontrer des professionnels de la voix dans différents registres. Donc, par exemple, phoniatre, qui est le médecin de la voix, orthophoniste. Et je donne des cours depuis 4 ans à la fac d'orthophonie à Rouen, parce que c'est ma région, sur les troubles de la voix chantée, parce que c'est un peu ma spécialité quand même. Et petit à petit, en fait, j'ai voulu expliquer par un terme ma façon de travailler. Et en fait, en quelque sorte, on imagine qu'on rentre dans une grotte avec une frontale. Et je suis la frontale, mes oreilles en tout cas, et un peu mes yeux aussi. Et j'invite les gens à me suivre dans les cavités de résonance du corps humain, par leur propre voix. Je pense que c'est la meilleure explication que je peux donner. Donc spéléo, c'est vraiment l'idée de la cavité, c'est ça que ça veut dire d'ailleurs. Et phonie, c'est voix. Donc c'est exploration des cavités du corps par la voix.
Le corps comme caisse de résonance.
Ah oui, le corps comme caisse de résonance, mais pas seulement, le corps comme vibrateur.
Qu'est-ce qui vous a amené à cette pratique et à cette démarche auprès de chanteurs, en quelque sorte, par exemple, ou ça peut s'adresser à n'importe qui?
Ça s'adresse à n'importe qui. J'ai un public qui va de jeunes gens qui ont juste envie de s'amuser à chanter à des personnes âgées qui ont toujours rêvé de faire du chant, en passant par des professionnels, avocats. J'ai vraiment un public très large, en fait. Donc c'est ouvert à tous. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu à un moment donné un problème de voix sévère qui m'a obligée de m'arrêter plusieurs années. Donc moi, je chantais dans le chœur de l'Opéra de Rouen, qui était à l'époque associé au chœur Accentus, qui est un très beau chœur a cappella, dirigé par Laurent Séquilbet. Donc ça, c'était au début des années 2000. Et au bout de quelques années, j'ai commencé à développer des douleurs pas vocales, paradoxalement, et tant mieux, parce que du coup, ma voix, je l'ai toujours, mais musculaires. Et au niveau des trapèzes, donc là, toute la chaîne scapulaire, en fait, au niveau des épaules, des cervicales, jusqu'à pratiquement la moitié du dos. Et c'était tellement douloureux que je ne parvenais plus du tout à travailler, en fait. Donc je me suis arrêtée plusieurs années et je me suis rendu compte assez vite que j'avais un problème de respiration pour commencer, puisqu'en fait, la première étape de la spéléophonie, c'est un autre terme un peu technique, c'est la spirophonie, qui veut dire respiration de la voix. Spirare en italien, en latin, ça signifie esprit, mais ça signifie aussi respirer. Enfin, respiration. Donc j'adore l'idée que les deux soient associés. Et je me suis rendu compte aussi que dans mon travail personnel, l'état émotionnel, l'état d'être, j'ai envie de dire, au monde, a une influence énorme et que notre voix, et d'ailleurs Barbara, la chanteuse, le disait elle-même, elle disait, c'est le reflet de l'âme, raconte plein de choses sur nous et notre état. Et qu'à partir du moment où on commence à rentrer dans les cavités profondes de notre voix, ben on fait remonter beaucoup de choses. Voyez. Donc du coup, je ne suis pas thérapeute, je tiens à le dire, parce qu'en plus, le mot thérapeute aujourd'hui, il est plus utilisé comme autrefois. Thérapos en grec, je crois que ça veut dire mettre en harmonie, donc je ne suis pas très loin quand même. Mais je fais un travail thérapeutique. Voilà, c'est-à-dire que mon travail est thérapeutique parce que vous avez n'importe quelle personne qui a envie d'explorer sa voix. Et la plupart du temps, ben, ça fait émerger beaucoup de zones d'ombre qu'on a. Voilà. Et la joie qui en découle, ben, en tout cas, c'est mon expérience de ces personnes, c'est qu'elles ne se croient pas capables de chanter avec, par exemple, des aigus. C'est beaucoup la demande que je reçois. J'ai pas d'aigus. Ou alors, j'ai l'impression que j'ai une toute petite voix. Ma voix est serrée. Et en fait, au bout de quelques séances, quand le lien de confiance se crée, parce qu'il y a tout un travail aussi de mise en confiance mutuelle, hein, des deux côtés, parce que moi aussi, je dois être en confiance pour accompagner les gens, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Pas toujours, mais la plupart du temps. Voilà.
Vous avez pratiqué le chant, et puis donc, suite à ces difficultés, vous vous êtes lancé sur cette étude de la spéléophonie. Ça fait combien de temps que vous pratiquez donc, cette technique?
Alors, moi, je suis artiste lyrique, j'ai 25 ans de travail vocal, je chante toujours, hein, je suis toujours sur scène, très régulièrement. C'est une question difficile parce que, en fait, je pense que ça a toujours été là, cette quête, en fait. Pour moi, c'est une quête de sens. C'est presque peut-être un mot un peu fort, mais c'est le mot qui me vient, c'est un parcours initiatique pour moi. Donc, du coup, j'ai grandi ces 25 dernières années, je parle de grandir sur un plan, pas physique, quoi, mais sur un plan plus personnel, avec l'idée que cette spéléophonie, si elle m'avait tant apporté à moi, elle pouvait être un outil formidable pour n'importe qui. Et pourquoi j'y suis, pourquoi je le pratique, c'est moi qui ai créé le mot. Donc après, ça pourrait être transmis, en fait, après. Il y a une méthodologie que je mets en place petit à petit, qui pourrait être transmise à n'importe qui, même à des non-chanteurs, à partir du moment où c'est compris et intégré dans le protocole que je commence à mettre en place, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Mais... Le public, par exemple, que vous recevez, n'importe qui peut venir à vos ateliers?
Alors, ça, c'est une question super importante. Quand on est artiste lyrique, déjà, rien que le terme, ça plante un décor un peu élitiste. Quand je dis que je suis... Alors, à l'époque, je disais cantatrice, maintenant, je ne le dis plus. Mais quand je dis que je suis artiste lyrique, souvent, on me regarde avec des yeux ronds. On est dans un pays qui fractionne les répertoires. Donc, vous allez aux États-Unis ou en Allemagne... Dans la même école, vous allez avoir, comme dans Fame, premier étage, le jazz, deuxième étage, Broadway, troisième étage, les danseurs, quatrième étage, les artistes lyriques, et cinquième étage, la symphonie. En France, non. En France, on a très peu de formation pour les musiques actuelles, par exemple, les chanteurs de musique actuelle. C'est vraiment une pénurie énorme. Donc j'ai un grand public de chanteurs de musique actuelle, jeunes, émergents, parce que je travaille avec un théâtre en région rouennaise, sur cette question de la formation du chanteur débutant, mais qui commence à faire beaucoup de concerts et qui n'a pas forcément la technique pour... Donc il y a un gros travail de prévention, notamment, avec ces jeunes-là, avec ces gens-là. Parfois, j'ai malheureusement des gens qui viennent trop tard, la voix est déjà trop abîmée. Et puis, j'ai des gens qui viennent, par exemple, une dame qui peut avoir 65 ans, j'ai une dame comme ça, qui me dit « je rêve de chanter depuis que je suis petite, mais je chante faux », par exemple. Mais tellement de sortes de gens que c'est difficile de vous faire un... Ce que j'aime dans cette pratique, c'est justement remettre quelque chose qui est totalement viscéral en nous, qui est de l'ordre de l'expression par le chant, par la voix, parce que je transmets aussi des choses pour la voix parlée, de manière fluide. C'est-à-dire que les gens se reconnaissent dans leur façon de vibrer et les gens se reconnaissent dans leur façon de s'exprimer, sans formatage. Donc l'idée, c'est de faire émerger la voix de chacun. C'est pas que je projette sur eux la voix que j'aimerais qu'ils aient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est faire tomber les cloisons un peu aussi entre les genres, hein, parce que j'ai des rappeurs, j'ai des slameurs, j'ai des chanteurs de métal, j'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai des jeunes, j'ai des vieux, j'ai des moins vieux, c'est vraiment très divers.
Selon vous, plus le problème est pris jeune, et plus il est facile à remédier?
Alors j'aurais répondu oui à cette question il y a 6 mois. Et puis récemment, j'ai eu une expérience avec quelqu'un parce que je me suis penchée un peu plus sur les neurosciences, la plasticité du cerveau et le côté archaïque de l'instrument vocal, hein, qu'on a tous en nous, que le bébé, quand il vient au monde, la première chose qu'il fait, normalement, c'est crier, et peut hurler pendant une heure à nous casser les tympans sans jamais se faire mal aux cordes vocales. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Donc je suis allée gratter de ce côté-là, et en fait, je me suis rendu compte que la musculature archaïque de la voix, la plupart d'entre nous adultes, on la met de côté. Et que c'est peut-être possible de la remettre en route. Et donc, en travaillant sur la musculature sur moi, j'ai beaucoup avancé d'ailleurs dans ma pratique, je me suis rendu compte que ma voix devenait plus solide quand je reprenais possession de cette musculature. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Néanmoins, j'ai réussi à mettre en place des exercices pour moi et je les ai proposés un peu en laboratoire à quelques élèves que je connais depuis longtemps en leur disant « Tu veux pas qu'on essaye de mettre ça en pratique ensemble ?» Et en fait, j'ai été très étonnée des résultats et eux aussi d'ailleurs, parce qu'en quelques séances, tout d'un coup, la voix primitive, on pourrait dire, avec des sons qui sont parfois un peu bizarres, s'est mise à sortir. Et la joie qui découlait de leur part et de la mienne à ce moment-là, ça m'a montré que, en fait, oui, on peut, à tout âge, n'importe quand et en très peu de temps, retrouver ça.
Concrètement, sur Di ou le Diwa, comment s'opéreront ces ateliers, justement ?
Alors, moi, je ne vais pas proposer de spéléophonie sur le week-end du mois d'octobre. Je vais proposer un travail sur la prise de parole en public, parce que ça, c'est greffé dans les 5 dernières années sur ces propositions spéléophonistes et spiréophonistes. On m'a proposé d'intervenir en université sur l'expression orale, dans un premier temps, puis l'art oratoire et l'art de l'argumentation. Donc moi, je ne suis pas une universitaire. Je suis une ancienne intermittente du spectacle et une artiste lyrique mêlée à une pédagogue. Donc du coup, j'ai dit oui, un peu, de manière un peu culottée d'ailleurs, quand j'y pense. Et l'année dernière, je me suis retrouvée avec un amphi de 380 étudiants, avec des philosophes en première année, des espagnols en première année et des sciences du langage en première année. Donc j'avais tous ces jeunes qui sortaient du bac et puis il fallait que je les invite à s'exprimer. Donc j'ai un héritage familial, social assez solide au niveau de la prise de parole en public, mais je ne savais pas que je savais le transmettre. Donc ça a été là aussi un laboratoire de recherche avec eux. Et un vrai cadeau, en fait, parce que ces jeunes, tout leur collège, on les muselle. Enfin, c'est ce que j'ai observé. Terminale, on commence à déverrouiller en disant « Oui, vous avez un oral de français. » Ok. Puis arrivé au bac, on leur dit « Bon, à partir de 2021, vous allez devoir faire 20 minutes d'oral. 10 minutes libres, 10 minutes de questions. » Et là, tout le monde se décompose littéralement. Et donc, les universités proposent, depuis quelques années, il y a des concours d'éloquence qui poussent un peu partout. Des cours d'expression orale, mais c'est 1h30 semaine, c'est vraiment bon. Et donc du coup, j'ai monté un concours d'éloquence avec ces jeunes. Et quand j'ai vu ce que ça déclenchait chez certains, pas tous malheureusement, mais la majorité, je me suis dit, ah non, mais là, il y a un truc énorme à faire. Donc mon expérience de chanteuse, de comédienne, parce que je suis aussi comédienne, mélangée au clown, parce que je fais aussi du clown, mélangée à tout un tas d'autres outils, bah, à un moment donné, c'est sorti comme une évidence que le langage, autre moyen d'expression que le chant, autre outil d'expression que le chant, est un besoin fondamental de l'être humain. Et donc, moi, au CNNR, ce que j'ai envie d'apporter, c'est ça. C'est que les gens puissent aller dans leur comité avec des outils pour s'exprimer plus librement et que leur parole vraie puisse émerger, si je peux dire les choses de cette manière.
Pour ces tenues, justement, de rencontres prévues, il y aura une période prédéfinie, déjà ?
Vous parlez du week-end du mois d'octobre ?
Non, je parle pour la spéléophonie. Est-ce que il y aura quelques propositions
ici à Di ?
Dans le Diwa, oui.
Ah, peut-être. Ce n'est pas encore dans les tuyaux, mais ça pourrait. Ouais, ça pourrait avec plaisir. Moi, maintenant, ce que je voudrais, c'est développer des stages. J'en ai déjà fait deux l'année dernière parce qu'il y avait une demande. Sur 2 jours, faire des stages avec un public divers et varié, qu'on chante ou qu'on ne chante pas, qu'on n'ait jamais fait de son quoi. Peu importe, dernier stage du mois de janvier 2020, là, avant qu'on soit tous confinés, j'avais une dame qui est venue et que je ne connaissais pas et qui est venue et qui m'avait entendue en petite conférence que j'avais donnée sur un festival sur le son l'année dernière et qui m'a dit « Je vous ai entendu l'année dernière et j'ai eu l'impression que c'était possible que je puisse venir vous voir. » Donc ça m'a fait plaisir déjà qu'elle ait reçu ce message de « Oui, vous pouvez !» comme vous savez, comme M. Obama « Yes, you can !» La personne est venue, elle a pleuré en exprimant devant le groupe « Voilà, moi, mon rêve aujourd'hui. » C'est chanter, c'est sortir ma voix. Donc oui, bien sûr, pourquoi pas, on le dit, ouais, avec grand plaisir, vous avez une si jolie région.
Sûrement. Le Conseil national de la Nouvelle Résistance donc, a posé un pied sur le Diwa pour constituer un comité local. Ces comités locaux sont géographiquement sont établis comment par rapport à la géographie ? Ça serait au niveau départemental, régional ?
C'est en structuration. Il me semble qu'aujourd'hui, il existe une centaine de comités locaux. Il y a eu un lancement à la fin du confinement sur juin. Il y a eu un lancement de départ, en fait, qui était des pique-niques CNNR, pour que les gens se rencontrent déjà. Et puis, parce qu'il y a différents bords qui se rassemblent. Il y a des associations qui sont en contact, il y a des réseaux, donc il y a des informations qui circulent. Et donc moi, par exemple, qui viens de Chambéry, on s'est retrouvés à 35. Et puis, voilà, on a discuté, on a fait un petit point. C'était la première rencontre. Donc, il y a eu une dynamique de pique-nique pour, je dirais, pour mesurer un peu où c'est, qu'est-ce qu'il existait. Et donc, il y a à peu près une centaine de comités locaux qui existent en France. Certains qui sont très opérationnels avec des gens qui sont très 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 motivés, et il y en a qui naissent, qui sont naissants. Moi, par exemple, j'ai la volonté, le souhait d'en monter un sur le lieu où j'habite, et je le ferai une fois que j'aurai les outils, donc une fois que j'aurai passé le week-end du 9, 10, 11 octobre. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ces outils. Et donc, je participe à tout cette organisation avec cette motivation-là. Donc, l'idée, c'est de développer. Aujourd'hui, il y en a une centaine. Et l'idée, c'est de développer progressivement, qui en est en effet de plus en plus. Et l'un des points qui est très important, c'est que il faut qu'on puisse rentrer en contact et échanger avec toutes les couches sociales. C'est-à-dire rentrer en communication et en confiance avec, essentiellement, pour moi, c'est les milieux défavorisés, les gens en situation précaire, ou les gens en insertion, et parce que leur voix est super importante. Comment les faire venir? Enfin, faut d'abord aller vers eux, bien évidemment. C'est la première démarche. C'est de rentrer dans leur univers de manière à pouvoir échanger avec eux et leur apporter ou leur présenter notre dynamique et nos idées en disant: on a besoin de vous, on a besoin de votre avis, de qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui est important pour vous. Et de manière à recentrer le débat. Avec tous les bords, en fait, sociaux. C'est ça qui est super important.
Ce Conseil national de la Nouvelle Résistance, pour vous, c'est quelque chose de rassurant, à titre personnel ?
À titre personnel, c'est une voie. Pour moi, personnellement, quand j'ai rencontré le CNNR par Internet, ça a été une découverte et en fait, je me suis inscrit tout de suite. Ça fait des années que j'attends ça, que j'attends un mouvement comme celui-là et une dynamique sérieuse, parce que c'est une dynamique sérieuse avec des gens sérieux, des gens compétents, investis, qui ont donné beaucoup de leur vie depuis plusieurs années et qui sont toujours là, et qui sont toujours actifs, motivés, et qui dégagent une très belle énergie dont on a besoin pour construire ça. Voilà.
Je reviens un peu sur ces centaines de comités locaux qui se sont implantés du fait même d'avoir organisé ces rencontres au départ, ou alors elles se sont constituées petit à petit, dans une sorte d'effet de boule de neige.
Je pense que il y a des comités locaux qui sont définis comme comités locaux, parce qu'il y a évidemment plein de groupes un peu partout en France, de personnes qui, à travers des associations, se retrouvent pour défendre des idées, hein, quelles qu'elles soient. Et donc, les comités locaux ont pris l'étiquette comités locaux CNNR parce que ça correspondait à la dynamique du CNNR et aussi à la dynamique des associations et des groupes déjà existants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, bien évidemment, un esprit jaune, c'est-à-dire un esprit gilet jaune. Il y a un peu une suite, quelque part, de tout ça. Non pas que le CNNR veut s'approprier quoi que ce soit à ce niveau-là, c'est pas du tout la question, c'est plutôt une ouverture de débat. Et donc, il y a un lien avec ce besoin de se rassembler. Et donc, il existe depuis tout temps. D'ailleurs, il a toujours existé des mouvements. Je sais pas, je pense qu'il y a plein. Il y a Greenpeace, il y a Attac, il y en a plein qui existent, qui se sont construits comme ça. Et nous, la dynamique, si j'ai bien compris, c'est de développer au maximum en France, de manière à créer des réseaux et à se rassembler pour s'unir et être fort, avoir du poids, parce que le poids est important.
Ce choix de dit pour ces rencontres, c'est suite à une demande de la population locale, ou alors est-ce qu'il y avait un désir aussi de s'implanter à un endroit qu'on pourrait dire symbolique vu de la résistance pendant l'occupation ?
Dit, je crois, a été la première ville à être libérée en 1944, hein, si j'ai bien compris, ou en 1945. Enfin, je n'ai pas encore regardé ça de près, mais j'ai entendu dire ça ces jours-ci, que dit a été une des premières villes à résister déjà et à être libérée. Donc je pense que c'est un choix vraiment pertinent de faire ça ici. Après, ce n'est pas nous qui avons décidé.
Nous, on s'est inscrit.
Il faudrait s'adresser à qui de droit.
Je rappelle donc ces rencontres qui seront organisées le 9, 10, 11 octobre à Die. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de données à préciser. Et puis, donc, si toute personne est intéressée, elle peut par mail s'adresser à cette adresse. Donc, logistique-die-cnnr@gmail.com où Mathieu répondra donc.
Oui.
Et puis pour la spéléophonie donc avec Delphine Astou, vous avez un site internet
oui.
Et d'ailleurs son adresse est
expression orale oratoire tout attaché oui c'est ça, vous, rien qu'en tapant ça dans la barre de recherche vous trouvez, voilà.
Tout
Delphine Astou, ça doit marcher aussi d'ailleurs.
Eh bien, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler donc, de ces sujets. Delphine Astou pour la spéléophonie.
Merci à vous.
Et puis vous deux, donc, avec Mathieu Chapsal pour le CNNR.
Merci.
Merci.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.